Dans le NRV, la suite ce soir, dossier terrorisme avec pour en parler dans le studio 621 de la Maison de la Radio, quatre invités. Je commence par vous, Amélie Mchili, vous êtes sociologue, auteur de « En attendant le paradis, anatomie des radicalisations ». C'est paru aux éditions du CERF, ça vous va comme présentation?
Parfait.
Très bien. Driss Aït Youssef, vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste du terrorisme. Est-ce que là c'est bon?
Plutôt des questions de sécurité.
Ça va marcher. Ashraven Brahim, vous êtes essayiste et vous signez L'Emprise, enquête au cœur de la djihadosphère aux éditions Le Mieux.
Oui.
Et Gérard Leclerc, vous êtes journaliste, ça tout le monde le sait.
Ouais.
Les présentations sont faites, on peut commencer.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. Ce soir, un dossier terrorisme. On se souvient, on était dans la dernière ligne droite de la campagne pour les européennes et une bombe explose dans une rue piétonne de Lyon vendredi dernier. Colis piégé, acte terroriste, mais aucune revendication. Lundi, un homme est arrêté et hier, il avoue et affirme avoir agi seul. Et là, il y a quelques instants, Christophe Bourseiller, on apprend que...
Il affirme avoir agi au nom de Daesh.
Donc avec Christophe Bourseiller, on a eu envie de rouvrir le dossier. On en est où dans la lutte contre le terrorisme en France? Et au-delà, après la défaite de l'État islamique en Irak, en Syrie, d'où peuvent venir les menaces de djihad global? Après le Sri Lanka, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, quels sont les pays menacés? Tous nos invités sont installés. Le NRV de la suite, ça peut commencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe.
Mon cher Laurent, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, mais j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix, oui, parce que ce soir, j'ai la nostalgie du monde ancien, Laurent. Un monde sans portable, ni internet, avec des cocos, des réacs, des fachos, des gauchos, des socialos, des bourges, des proles. Toute une époque, Laurent, qui s'est symboliquement évaporée le 11 septembre 2001, quand on est entré dans le siècle nouveau. Depuis lors, chacun a intégré un nouveau paramètre de détection. Ce type louche avec un sac à dos, serait-ce un terroriste? Et les attentats pleuvent sur toute la planète à un rythme aussi irrégulier qu'angoissant. Alors que faire? Subir? Ouvrir un parapluie en espérant que la grêle s'arrêtera? Avec l'annihilation géographique de la secte Daesh, on pouvait espérer une embellie, mais le gourou Baghdadi court toujours. En 2001, les professionnels de la lutte antiterroriste disaient, Laurent, on en a pour 20 ans. Alors écoutez Laurent, on est en 2019. On en est où en 2019? Ça va faire 20 ans. Driss Aït Youssef, merci d'être venu. Peut-on aujourd'hui considérer l'attentat de Lyon comme un attentat typiquement islamiste?
Aujourd'hui, tous les moments dont on dispose, et il faut être quand même prudent parce qu'il y a encore une enquête en cours, mais les informations tendent effectivement vers la qualification d'un attentat terroriste à caractère islamiste, puisque cet individu qui, d'après ce que vous dites, semble avoir agi au nom de cette organisation terroriste, donc tout converge. Mmh. C'est un attentat qui a visé une population. Il y a une définition dans le code pénal et ça rentre parfaitement bien dans la qualification du code pénal, article 412 me semble-t-il, qui définit ce que n'est un acte terroriste. Donc oui, c'est un attentat.
Alors en même temps, c'est un personnage assez curieux, parce que d'après ce que j'ai pu lire de lui, de son parcours, il y a presque un côté Jean-Claude Roman chez lui, puisque c'est quelqu'un qui faisait croire qu'il était dans une école d'informatique alors qu'il n'en était rien. C'est quelqu'un qui cachait qu'il était Amélie Chély. Dans votre livre En attendant le paradis, vous parlez de nombreux cas analogues de gens qui sont mal dans leur peau, mal dans leur être, et cette désocialisation qui les conduit sur la voie de la radicalisation.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une idéologie pour récupérer les frustrations populaires. Alors, en général, les frustrations populaires, de façon beaucoup plus massive, il s'agit de désespérances socio-économiques ou autres, mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus marginales et qui relèvent de la psyché, tout simplement. Alors, effectivement, on a souvent dit la grande différence entre Daesh et Al-Qaïda, ce qui n'est pas totalement faux, c'est qu'on est dans une élitisation chez Al-Qaïda, tandis qu'on est dans une grande massification et qu'on va jusqu'à ramasser ceux qui sont handicapés mentaux chez Daesh. Mais en fait, quand on regarde bien, il y a une certaine proportion qui est un parfait reflet de ce qu'on peut observer dans la société, des pathologies tout simplement. C'est-à-dire que on a dans Daesh une sorte de spectre qui recouvre à peu près toute la société, des classes moyennes, des femmes, il y a de tout. Et il y a aussi des personnes qui ont des problèmes avec leur vie personnelle et qui ont des problèmes à gérer leurs émotions et qui peuvent parfois être atteints de psychopathologies.
Ashraf Ben Brahim, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Le premier point, oui, bien sûr. J'avais développé sur votre plateau il y a de cela quelques mois la théorie du djihad et du désœuvrement.
Ouais.
Typiquement, l'attentat de Lyon, le profil y correspond. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui finalement n'avait plus rien à perdre. Et malheur à celui qui n'a plus rien à perdre. Son inscription a été refusée, son visa a été refusé. Généralement, quand vous êtes motivé par un attentat djihadiste, vous n'attendez pas qu'un visa ou une situation professionnelle se complexifie pour passer à l'acte. D'ailleurs, le contexte aussi s'y prétend, parce que l'État islamique est en miettes territorialement, pas idéologiquement, mais territorialement.
On va y revenir, oui.
On va y revenir. Donc, je ne vois pas trop quel aurait été l'impact de faire exploser deux malheureux... un attentat, quoi. Je ne vois pas quel impact il y aurait. Il n'y a plus de frappe aérienne en Irak. L'État islamique est complètement disloqué. Ses chefs sont dans la clandestinité totale, se cachent. Donc je vois mal quel impact ça.
Mais là, on parle souvent à propos de ce monsieur, c'est le mot qui revient tout le temps, c'est presque un cliché. On dit c'est un loup solitaire,
auto-radicalisé.
Il s'est auto-radicalisé en regardant la télé ou en regardant Internet. Et en même temps, on s'aperçoit que les loups solitaires ne sont jamais totalement solitaires.
Non bien sûr. Internet, c'est un moyen, c'est pas une finalité. J'ai regardé des milliers de vidéos djihadistes, je ne suis pas radicalisé. C'est si au départ vous avez une motivation.
Bien sûr.
Les vidéos de l'État islamique peuvent servir de support, comme par exemple fabriquer des bombes, et je pense que justement, il y a eu accès. Mais je voudrais aussi revenir sur un autre djihad dont on ne parle pas assez, mais qui n'est pas propre au djihad français, c'est le djihad de conviction. Vous en avez un exemple récent, qui sont les frères Klein, qui sont Thomas Barnoin, diplômé, ancienne famille de résistants, totalement intégré dans la société française, mais qui considèrent qu'il y a une idéologie, et que leur religion, leur dogme, les y pousse à contribuer. Donc le problème, c'est que la spécificité du djihad français n'est pas le djihad de conviction, c'est un djihad du désœuvrement. C'est pour ça que parmi les profils que vous égrenez, vous avez souvent des gens qui sont désocialisés, qui n'ont pas de perspective, et qui sont finalement un formidable gain pour l'État islamique, parce que si on prend l'exemple des frères Kouachi ou d'Amidi Koulibaly, c'est des gens qui ont eu un passé de délinquants, et que cette habitude des clandestinités, d'agir dans la clandestinité, est un formidable moteur pour créer des
C'est-à-dire que l'islamisme légitime leur violence en expliquant c'est légitime puisque vous luttez contre l'Occident. C'est ce que vous expliquez à Amélie Chély. Et d'ailleurs, vous parlez aussi d'un aspect qui est très intéressant, c'est le fait, vous parlez des frères Klein, les convertis, et vous dites, comme ils sont convertis, ils deviennent des sur-musulmans. C'est-à-dire qu'ils en rajoutent encore dans la radicalité, peut-être pour essayer de montrer qu'ils sont plus musulmans que les musulmans, en fait.
Oui, j'aurais adoré avoir la paternité de ce terme, mais il faut le rendre à Fethi Ben Slama, le sur-musulman. Ça ne concerne absolument pas l'intégralité des personnes qui se convertissent, heureusement. C'est très marginal, mais on observe effectivement que quand il s'agit de conversion, on a besoin de montrer, en fait, d'aller plus loin que ceux qui le sont naturellement, comme si quelque chose relevait de l'acte et plus de l'essence.
Et vous citez une femme belge nommée Muriel de Gauck,
oui, tout à fait.
Qui est dans une espèce de parcours incroyable, où elle donne des leçons. Enfin, elle est décédée aujourd'hui, mais elle donnait des leçons, en quelque sorte, d'islam à tout le monde,
alors qu'elle était au départ de confession chrétienne. Tout à fait, à ses époux, c'est-à-dire que son premier mari, on va le laisser de côté parce que c'était un mariage blanc, le deuxième mari n'était pas pratiquant, elle trouve un Coran dans ses affaires, le lit, lève les yeux et voit que son époux n'est pas un bon musulman, donc du coup elle décide de le quitter, se convertit, en fait beaucoup plus que de raison, se tourne vers une mosquée très sulfureuse à Bruxelles, qui existe toujours, c'est la mosquée de la rue de la Limite, qui avait été d'ailleurs mêlée.
Rien que le nom, la mosquée de la rue de la Limite, c'est presque prédestiné.
Prédestiné, tout à fait. Il y avait eu une affaire d'exorcisme qui s'était soldée par une noyade d'une jeune fille. Enfin bon, bref, c'était vraiment assez sulfureux comme endroit. C'est là-bas qu'elle rencontre son nouveau mari, et encore, elle est plus radicalisée que lui. Elle veut le pousser. Finalement, elle se fait exploser en Irak en 2005. Son mari est assassiné par des contingents américains avant que lui-même puisse se donner le même destin. Mais effectivement, on a cette idée de volonté de toujours redoubler d'efforts pour être plus musulman que les autres.
Moi, je voudrais revenir sur le mode opératoire à Lyon, parce que ça a rappelé, je l'ai pu lire dans Libération, ça a rappelé la vague d'attentats de 95 qui avait été perpétrée par le GIA, le groupe islamique armé algérien. C'est comme ça aussi que vous l'avez ressenti, Gérard Leclerc ?
Écoutez, là, j'ai pas suffisamment de détails et d'informations sur ce cas précis. À première vue, on est plutôt dans un cas là de quelqu'un qui je vais pas dire qu'il bricole tout seul, en s'inspirant bien évidemment de ce qu'il peut trouver sur Internet. Mais il y a, semble-t-il, la grande différence par rapport à d'autres attentats terroristes qu'il y a eu en France, c'est que, bon, entre-temps, Daesh a quand même disparu, au moins géographiquement, et territorialement, et même en temps, semble-t-il, là je parle prudence, que je suis moins spécialiste que vous, mais pour tout ce qui est l'organisation, c'est-à-dire qu'avant, par exemple, je crois que les attentats de Paris, c'est quelque chose qui a été planifié, organisé. Là, semble-t-il, toujours être prudent, c'est pas le cas. On serait plutôt plus près de quelque chose comme l'attentat de Nice, où c'est un type qui, en peu de temps, quelques mois avant, il est en boîte de nuit, etc., il avait une vie qui était totalement différente, et qui, d'un coup, s'auto-radicalise, prépare avec quelques-uns, mais un peu quand même seul, son attentat, et ensuite, bon, le fait revendiquer, etc. Et là, on a l'impression que c'est un peu ça. La grande différence par rapport à il y a quelques temps, depuis la disparition géographique de Daesh, c'est qu'il n'y a plus quand même cette organisation qui pouvait donc planifier véritablement, organiser des grands attentats.
C'est pour ça
en revanche revendique à peu près systématiquement quand il y a un attentat quelque part.
Ce qui fait qu'en même temps, il passe entre les mailles du dispositif antiterroriste en fait.
C'est là où ça devient encore plus compliqué. Absolument.
Vous me permettrez peut-être une réaction, c'est que effectivement depuis les nombreuses arrestations liées au djihadiste Rachid Qassim en 2016-2017. L'État islamique invite systématiquement ses partisans, ses sympathisants à ne pas communiquer avec des djihadistes sur place pour éviter justement les interceptions.
En plus, ouais.
Et donc, ils se disent, mais puisqu'il y a un attentat, même si on ne connaît pas la personne, il va de soi que c'est grâce à nous. Voilà, c'est juste la petite précision.
Oui, c'est ce qu'on appelle le basculement de cette menace un peu exogène en menace un petit peu endogène. C'est-à-dire qu'effectivement, y compris avec les moyens qui ont été déployés par la puissance publique, c'est-à-dire à la fois le ministre de la Justice, des Affaires étrangères et de l'Intérieur, visant justement à éviter que des ressortissants français se rendent dans un théâtre d'opérations terroristes extérieures, avec aussi une campagne de communication assez forte de la part des médias. Parce que vous avez beaucoup de médias qui ont montré quel était finalement le quotidien de ces Français et de ces Françaises qui se rendaient là-bas, a finalement dissuadé beaucoup à se rendre. La conséquence, c'est qu'effectivement, avec ces consignes qui ont été passées par cette organisation terroriste, l'État islamique, qui justement incitait nos ressortissants à ne pas venir, à ne plus venir, mais à commettre des attentats. Et effectivement, on a eu quelquefois ces revendications dont on estime qu'elles sont opportunistes, mais en réalité, non documentées. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que rien n'est démontré que l'individu qui a commis un attentat appartient bien à cette organisation terroriste. Le meilleur exemple, c'est Lawaj Boulal, l'auteur de l'attentat de Nice, qui avec un camion, effectivement, le 14 juillet, a tué, je crois, 87 personnes. Au moment où on se parle, je n'ai moi pas d'informations qui démontrent l'appartenance de cet individu à cette organisation terroriste.
D'accord.
Et dans le même temps, cette menace endogène, elle est aussi dangereuse. On avait effectivement des individus, soit avec des armes à feu assez anciennes, soit avec des couteaux qui commettaient des attentats. Aujourd'hui, on a un type qui a réussi à confectionner, alors un peu de TATP en quantité peut-être faible, mais a réussi à se procurer les éléments quand même. Donc il y a quand même une menace qui est quand même prégnante et qui est quand même assez forte.
Tomorrow.
Le Jam en 1982. Vous vous rappelez du titre, Christophe Bourseiller?
Non, mais j'aimais bien.
A Town Called Malice.
Ah oui, les mots,
ça. Rendez-vous.
Pardon, des quelques minutes de retard, en effet, parce qu'il y a eu une attaque donc à Lyon.
Et c'est un colis piégé qui aurait explosé.
J'ai juste entendu une très très grosse détonation.
La devanture de la brioche dorée avait sauté en éclats.
Quand même assourdissant, surprenant.
L'identification de l'auteur présumé de l'attentat au colis piégé qui a fait 13 blessés vendredi à Lyon a été longue et difficile.
Le suspect, le voici, Hicham M. sur France Inter.
ONRV La Suite sur France Inter, retour sur la lutte antiterroriste. On en parle avec nos invités, Amélie M. Chelly, sociologue, Driss Saïd Youssef, spécialiste des questions de sécurité, Achraf Ben Brahim, spécialiste de la djihadosphère, et le journaliste Gérard Leclerc. Alors on a parlé, on a juste évoqué la disparition territoriale, on va dire, de Daesh, mais il y a peu de temps, il y a eu la réapparition en vidéo, après 5 ans de silence, du chef de Daesh, Aboubakr al-Baghdadi. Qu'est-ce que révèle ce retour vidéo ?
Effectivement, Daesh au niveau territorial est malmené. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est justement cette multiplication des attentats. Pourquoi ? Parce que lorsque l'État islamique était constitué, avec à sa tête des émirs et un centre des opérations, les djihadistes ne passaient pas à l'action vraiment comme ils voulaient. Il y avait des cibles, il y avait des méthodes. Or, avec l'attentat du Sri Lanka, qu'est-ce qui a été invoqué comme motif ? C'est la réponse aux torsions faites, supposées aux musulmans. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, n'importe qui se trouve dans une région du monde qui s'estime malmenée ou lésée par une politique peut, en tout état de cause, se dire « bon, bah, puisque il y a cette torsion, alors je suis amené à faire un attentat ».
Et avec cet attentat-là, on est à 258 morts. Hein. C'est quand même sans commune mesure avec ce qui s'est passé à Lyon.
Et pour être allé me promener en Malaisie, en Asie, etc., je peux vous dire que les services secrets de ces pays-là ne sont absolument pas armés ni préparés à affronter une menace telle que des camions bourrés d'explosifs, des attentats suicides, etc. Donc la perte de l'État islamique au niveau territorial, elle est actée. Ces chefs se cachent, en revanche numériquement, et là vous me permettrez de faire un petit parallèle parce que c'est mon cœur de métier, je suis chef de projet digital, rien n'a changé. Les canaux de l'État islamique sont toujours actifs, il est tout à fait possible de récupérer des vidéos et de les diffuser, des tutos même pour faire des explosions,
des explosifs,
des bombes, voilà. Alors certes, il y a une forme de djihad low cost qui s'installe, parce que fabriquer du TATP, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est des matières très volatiles, mais les initiatives et cette espèce de connexion, même numérique, et ben finalement convainc le sympathisant de poursuivre dans cette radicalité. Et je voudrais aussi finir en disant que pour les djihadistes, il n'y a pas de réussite, en tout cas voulue. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de faire, il y a une obligation de passage à l'acte, il n'y a pas d'obligation de réussite. La maxime consacrée en arabe, c'est « Imman nasr wa imma shahada », la victoire ou le martyr. Ou bien on essaye de faire un attentat, on n'y arrive pas, on est tué et c'est le martyr. Ou bien on contribue à l'effort djihadiste et on en est récompensé immédiatement par la consolidation du califat.
C'est, oui. Voilà. Gérard Leclerc. Mais
justement, là, quand même, dans le cas de Lyon, ce qu'il faut noter, c'est que le type, il a fait attention justement à ne pas mourir avec. C'est pas du tout le cas de celui qui va se faire exploser au milieu d'une foule, etc. Il a laissé son petit paquet, il est parti. Mm. Donc là, il n'y a pas ce côté justement martyr. C'est pour ça que c'est pas tout à fait le même profil que d'autres.
C'est pour ça que j'ai précisé au début qu'il y avait dans ce cas-là plus une affaire de djihad. Du désœuvrement que de conviction. C'est bien pour ça que d'ailleurs, on va dire que les excités, les plus excités, les plus convaincus sont partis sur place, parce que les frileux, les demi-convaincus, finalement, désespèrent l'État islamique plus qu'autre chose. Donc, après 2015-2016, ceux qui sont restés sur place, ou bien ils étaient empêchés de le faire par des bracelets électroniques ou par des procédures judiciaires, ou bien ils n'étaient pas vraiment convaincus et ils attendaient finalement que leur hostilité envers la France augmente ou diminue. Et vous avez un dernier exemple qui est l'attentat de Magnanville. Le djihadiste qui était passé à l'acte, donc dont j'oublie le nom à l'instant, avait ouvert une pizzeria, un service de restauration à emporter. Le problème, c'est qu'il n'avait rien déclaré, donc le jour où il s'est fait contrôler, ils l'ont privé de son activité et il est passé à l'acte. Donc c'est vraiment ceux qui n'ont plus rien à perdre qui passent à l'acte.
Juste une question par rapport à ce basculement du califat territorial, le califat mental, c'est votre expression, Amélie Chelly. Est-ce qu'il y a, en termes de sécurité, justement, un changement aussi d'appréhension des problèmes ? Driss Saïd Youssef.
Le problème, il reste effectivement toujours le même et entier, dans la mesure où On est là dans ce qu'on appelle un retour, j'ai envie de dire presque aux sources d'une organisation terroriste, c'est-à-dire aussi une guerre idéologique. Elle était territoriale, mais elle ne concernait pas tant la France. Elle a concerné la France à partir du moment où la France a mis des moyens militaires pour combattre cette organisation terroriste. Elle est devenue maintenant idéologique au même titre qu'Al-Qaïda. Donc on peut parfaitement supposer que l'État islamique est une organisation terroriste du même type que Al-Qaïda. À ceci près que Al-Qaïda a aujourd'hui des territoires sur lesquels cette organisation terroriste agit. Il y a aussi l'Afrique, où vous avez à la fois une lutte entre ces deux organisations terroristes, qui, je rappelle, ne sont pas idéologiquement les mêmes. Donc, et les services français, pour répondre à votre question, sont évidemment préparés à la fois à deux types de menaces. J'exposais tout à l'heure la menace exogène et endogène. Ça veut dire à ces individus qui pourraient éventuellement revenir, même si aujourd'hui la plupart d'entre eux sont condamnés à mort en Irak, ceux qui sont revenus et emprisonnés, c'est-à-dire ceux qui disposent d'une expertise militaire. Et ceux qui sont radicalisés, et le FSPRT, ce fichier de signalement de la radicalisation pour la prévention du terrorisme, comporte quelques dizaines de milliers, je crois, il y a environ 20 000 individus, qui posent aussi un problème pour l'ordre et la sécurité publique. Donc vous avez cette menace exogène qui est assez prégnante et qui est extrêmement dangereuse, que les services ont appréhendé maintenant depuis maintenant quelques années, et cette menace endogène, mais qui peut subvenir, qui peut agir à tout moment. D'ailleurs, l'auteur de l'attentat de Lyon, cet individu, n'était pas fiché puisque le prélèvement ADN n'a rien donné. Donc ce sont des individus qui, la plupart du temps, sont sous le radar parce qu'aujourd'hui les services de renseignement sont très bien profilés, mais ils sont profilés pour aller capter le haut du système et pas forcément ceux qui passent sous le radar.
C'est ce qui fait la grande différence entre Daesh et la mouvance et Al-Qaïda, qui a toujours été une sorte de groupe élitaire réservé un peu aux élites arabes en quelque sorte, alors que c'est pas du tout le cas de Daesh. Par contre, avec Daesh, il y a quelque chose de nouveau et dont vous parlez dans votre livre En attendant le paradis, Amélie M. Chély, c'est la présence des femmes. C'est-à-dire que là, les attentats du 11 septembre, ce n'était que des hommes qui les ont commis, alors que là, maintenant, vous avez, vous le dites dans votre livre, 10% de femmes qui sont vraiment aux premières loges dans la lutte, ce qui peut paraître paradoxal, quand on, évidemment d'un point de vue occidental, puisque le fait d'aller vivre, par exemple, dans le califat, à l'époque où il était territorial, c'était quand même une preuve de soumission terrible, avec le voile qu'on mettait, l'impossibilité de travailler, etc. Et là, vous montrez qu'au contraire, il y a beaucoup de femmes qui sont à la pointe du combat militaire.
Oui, en gardant quand même à l'esprit que la combattante est ultra minoritaire et qu'en règle générale, la femme y va pour devenir un ventre, c'est-à-dire pour coloniser le territoire. Maintenant que le territoire n'est plus, elles ont toujours une utilité parce que ça avait été extrêmement prégnant dans les réseaux de copinage, c'est-à-dire que le discours se concentrait autour du fait que les cas des femmes revenantes ne seraient pas judiciarisés, ce qui est faux. Mais pendant bien longtemps, ils y ont pensé et donc, en fait, ils misaient absolument tout sur le fait que la frustration féminine ne se gère pas comme la frustration masculine et qu'elle peut s'attendre sur le temps et qu'elle peut justement se communiquer de génération en génération. En d'autres termes, si elles n'étaient plus les éleveuses du lionceau du califat, elles pourraient continuer de voir se pérenniser le discours de Daesh, de sorte que si jamais un jour un territoire pouvait être à nouveau établi, eh bien les soldats soient déjà là et prêts à l'attaque. Voilà.
Alors il y a une autre dimension qui m'intéresse, c'est la bataille financière que l'on pourrait mener contre Daesh. Je rappelle quand même que selon un rapport de l'ONU, Daesh conserverait un trésor de guerre d'une valeur comprise entre 50 et 300 milliards cachés en Irak ou en Syrie et qui serait transféré en contrebande dans les pays voisins, mais ils ont aussi investi dans des entreprises, des de l'immobilier. Comment on peut lutter contre ces sources de financement ?
Alors, vous l'avez très bien souligné, l'État islamique a très vite compris que le pétrole n'allait pas être son éternelle source de revenus. Et ils ont investi dans des entreprises, mais aussi dans une autre monnaie que les Français ne connaissent pas forcément, qui sont les crypto-monnaies. Tout ce qui est Bitcoin, Ethereum. Donc, c'est des monnaies numériques dont il est aujourd'hui extrêmement difficile à tracer.
Bien sûr.
D'ailleurs, récemment, l'État, si je ne me trompe pas, a lancé un appel d'offres pour doter ses services d'un logiciel de traquage de ces transactions-là. Parce que quand vous envoyez de l'argent Bitcoin, il arrive dans un portefeuille anonyme en 5 secondes. Donc, c'est extrêmement compliqué de tracer des transactions comme celle-là. Et d'ailleurs, ils n'ont pas non plus été stupides en investissant même dans des fermes de carpe. Ça peut faire sourire notre auditoire, mais l'État islamique a investi de l'argent dans des piscicultures de carpe. Et donc aujourd'hui, le défi qui nous reste aujourd'hui, c'est anticiper les nouvelles formes de financement. Ceux que l'on connaissait, à savoir le racket au checkpoint des populations locales, L'envoi d'argent d'intermédiaire à intermédiaire, bon, tout ça c'est plus ou moins connu, Tracfin, etc., ils travaillent. Mais la nouvelle forme de menace financière, c'est celle-ci, c'est les crypto-monnaies.
Triss et Youssef,
on voit bien que entre 95 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Avant, c'était des individus, des Français qui commettaient, par exemple, je me souviens de ce Français, le Lillois, la bande de Roubaix, qui commettait des braquages pour envoyer de l'argent à l'organisation terroriste, notamment Tchétchénie et donc Al-Qaïda d'une manière générale. Là, ce n'est plus la même chose. Ils sont complètement autonomes et ils sont capables. Ce trésor de guerre, il n'est là pas pour faire fructifier, en tout cas pas pour mettre à l'aise les représentants de cette organisation, mais pour commettre des attentats. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est fructifié pour financer des guerres. Et classiquement, l'Afrique est un enjeu important. Après, vous avez des organisations internationales qui traquent cet argent et qui luttent. Et dans le même temps, vous ne pouvez vous appuyer que sur ces pays, notamment l'Irak, notamment la Syrie, mais qui quelquefois ont des systèmes défaillants parce que la corruption est là et que c'est toujours très compliqué de tout remonter. Donc c'est l'un des défis majeurs. C'est évidemment le financement du terrorisme qui est extrêmement important. Nous avons beaucoup fait en France, nous avons beaucoup fait à partir de 2015 en Europe avec l'Union européenne, mais il reste effectivement ce financement local qui pose une vraie difficulté pour le terrorisme.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard, sur France Inter. You take a take and you will get what you get. And you make, and you pretend what you get. You never take time. No, you'll never take mine. But if you don't, you will be getting, you'll be getting again. If you don't, you will be getting, you'll be getting.
Signé Cat Power sur France Inter, elle sera en concert au festival Days Off à Paris le 4 juillet, aux Nuits de Fourvière à Lyon le 5 juillet, à Beauregard à Caen le 6 juillet. Ce soir, c'était tout simplement dans le NRV.
Rendez-vous.
We've been fighting for a long time.
Nous nous battons depuis longtemps en Syrie.
And we have won against ISIS.
Et nous avons gagné contre Daesh.
And now it's time for our troops to
Il est
come
temps
back
pour nos
home.
Troupes de rentrer à la maison.
La menace n'a pas disparu pour autant.
L'idéologie qu'il véhicule est encore très forte, très présente.
Plusieurs zones d'Irak et de Syrie restent sous forte influence des djihadistes.
Et les combattants cachés sont encore présents.
On n'en a pas fini, ni avec le djihadisme, ni avec les Français qui combattent contre la France. Parce qu'ils combattent contre la France. Ce sont nos ennemis.
Sur France Inter.
Terrorisme au programme du NRV, la suite sur France Inter. On reste sur le financement quelques instants encore, Christophe Bourseiller.
Oui, parce que Driss Ayitoucef, ça c'est ce que vous nous disiez hors antenne, et c'est absolument palpitant, c'est le fait qu'il y a toute une zone aujourd'hui qui est comme une base de repli à la fois financière et technologique, c'est l'Afrique. Et en Afrique, vous faites-vous remarquer, il y a des caches qui sont parfois considérables.
Oui, il y a des caches en Afrique, vous en avez en Syrie, vous en avez en Tunisie, il ne faut pas oublier que lors de la chute du colonel Kadhafi, il y avait des caches d'armes absolument énormes. Puis il était connu pour stocker beaucoup d'argent liquide dans des conteneurs, parce qu'il était préparé à la guerre. Et il savait que tôt ou tard, le pays allait être, pas envahi, mais en tout cas, allait avoir une guerre. Et donc, pour payer ses mercenaires, il avait besoin d'une grande quantité de cash. Donc, il y avait des conteneurs avec de l'argent liquide et qui s'est évaporé. Vous avez des commandos qui ont fait des découvertes en Afrique, avec à la fois de l'armement quelquefois sophistiqué, mais avec des grandes quantités de dollars, souvent, c'est vrai, qui sont fruits des rançons. Parce qu'il y a eu beaucoup de rançons, notamment en Somalie et ailleurs, notamment aussi au Cameroun, et qui permettent de financer. Mais vous avez aussi du financement du terrorisme qui provient aussi de Syrie et qui à la fois peut inonder l'Afrique, mais pas simplement, parce que vous avez aussi le Caucase, vous avez d'autres zones que aujourd'hui cette organisation terroriste convoite, y compris en Afghanistan, contre les talibans, parce que les talibans c'est Al-Qaïda. Il y a des guerres entre Daesh et les talibans pour se disputer des territoires entiers. Donc cette question du financement, elle est importante parce qu'elle permet aussi de s'assurer des soutiens de tribus locaux. Donc c'est vraiment un enjeu qui est majeur dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Mais donc on pourrait dire, si on voulait prendre une vision plus globale, que on est vers la fin de la guerre et que malgré tout ces djihadistes sont en train de perdre le combat, ou au contraire, on peut imaginer un retour de flamme considérable.
Alors c'est, pour être très court, c'est pas si évident que ça, parce que quand vous avez des grandes quantités d'argent et de grandes quantités d'armes, il faut pouvoir le recycler, et vous avez souvent des intermédiaires, notamment en Turquie, qui sont pas forcément acquis à votre cause, mais qui sont là pour faire du business. Et puis quand ils peuvent évidemment vous arnaquer, ils peuvent vous arnaquer comme ça a déjà été le cas. Et dans le même temps, ils stockent beaucoup d'argent. J'ai en mémoire une frappe de la coalition sur une maison avec une quantité énorme, je crois qu'on parlait de 10 ou 30 millions de dollars, qui a volé en éclats, pensant qu'il y avait des armes à terre. Donc cette question effectivement du financement, elle est vraiment importante, mais elle est pas évidente pour l'organisation terroriste non plus.
Achraf Ben Brahim.
Je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit, surtout qu'en Afrique, on va devoir affronter un autre problème, c'est que Al-Qaïda et l'État islamique se tolèrent et collaborent même ensemble. Ce qui n'est pas le cas en Afghanistan, en Syrie ou en Irak, avec d'un côté Hayat Tahrir al-Sham, donc une autre composante de Al-Joulani qui était un opposant à Baghdadi, mais bref. Donc en plus d'une KYC qui est complètement inexistante, KYC Know Your Customer, c'est la compliance, c'est le service qui permet de vérifier justement que cet argent n'est pas blanchi, n'est pas destiné à financer le terrorisme, qui est extrêmement défaillante, due à la corruption, mais aussi à un manque de technologie. Et puis en plus, ils sont main dans la main en Afrique pour nuire aux pays de la coalition et s'organiser. Donc il y a d'un côté la nécessité de tracer et de mettre fin à ces financements, mais aussi l'autre, le problème, c'est que quand vous avez des tribus qui ne sont pas forcément islamistes, mais qui viennent avec de l'or, qui viennent avec des vivres, qui viennent avec toute une série de mesures qui peuvent améliorer votre quotidien, vous pouvez difficilement leur dire « non, bah crevez de faim et prenez pas leur fric ». Je suis assez familier, mais ça c'est quelque chose qu'on n'explique pas encore suffisamment, c'est qu'en Irak, il y a eu aussi un phénomène de ralliement des tribus sunnites à l'État islamique, après qu'elles aient été trahies par la promesse de former des gouvernements démocratiques avec les chiites. Donc c'est encore un autre problème. Donc vous avez et le problème économique, la situation complètement défaillante des systèmes de traçage, et en plus une situation sociale extrêmement faible. Donc c'est ces trois facteurs qu'il faudra observer.
Gérard Leclerc ?
Oui, ce qu'on nous a raconté à l'instant sur effectivement le cash, c'est extraordinaire. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a également tout ce qui est véritablement le trafic qui passe, comme vous l'avez dit, par le bitcoin, par des paradis fiscaux, par tout ça. Et là, la seule façon de s'attaquer à ça, ce serait une vraie coopération internationale. Mais là, le problème, c'est que l'argent, comme chacun sait, on a beaucoup de mal, parce que il n'y a pas uniquement de l'argent du terrorisme, c'est aussi l'argent du business, tout ça, etc. C'est les paradis fiscaux. Et là, comme par hasard, on a beaucoup de mal à lutter sur le plan international. Alors, on le fait un peu avec Trackfin, etc.
C'est le point d'achoppement pour la lutte internationale.
Bah, en tout cas, ça fait partie. Parmi tout cet argent, ces flots d'argent, c'est qui est gigantesque, donc d'argent sale, pour parler vite, il y a de l'argent du terrorisme. Mais il est sans doute, il y a lui, mais il y a le reste. Et tant qu'on ne sera pas véritablement en mesure, tant qu'il n'y aura pas une véritable coopération internationale pour lutter contre ça, alors ça existe un tout petit peu, ça progresse un peu, mais enfin, on est encore très très loin du compte. Il y a toujours des paradis fiscaux, il y a toujours de l'argent qui circule, qui est en dehors des contrôles.
Et sur le plan de la lutte antiterroriste en France, début juillet, on s'en souvient, le Premier ministre avait dévoilé un nouveau plan de lutte antiterroriste dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Une trentaine de mesures, ça s'appuyait sur les prisons, l'éducation, les services publics, Internet. C'est un plan efficace selon vous ou de la poudre aux yeux?
Non, moi je pense que c'est une très bonne chose parce que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle un comité interministériel lutte contre le terrorisme qui prend en considération plusieurs aspects. Parce que le ministre de l'Intérieur qui croit qu'à lui seul il va régler la question du terrorisme en France, c'est juste une aberration, il faut juste qu'il change de métier. Donc la question, la lutte, la prévention et la lutte contre le terrorisme, c'est aussi prendre, comme ça a été dit tout à l'heure, les causes, j'ai envie de dire, les causes sociales, le décrochage scolaire. Avant on disait, moi je suis un spécialiste des questions de sécurité, avant on disait que la déscolarisation c'était l'antichambre de la délinquance. On peut facilement dire aujourd'hui que la déscolarisation, c'est l'antichambre de l'islamisation et ensuite qui est elle-même l'antichambre du terrorisme. Et donc, il faut pouvoir lutter contre le décrochage scolaire. Il faut pouvoir lutter effectivement dans le repli identitaire. On sait que dans un certain nombre de nos territoires de la République, vous avez un repli identitaire qui est très négatif parce que vous avez toujours un début de revendication et ces revendications, elles donnent souvent lieu à quelquefois à des mouvements ou en tout cas des organisations qui vont contre la République. Donc il faut pouvoir lutter contre ça. La question de la prison, pour terminer, est une question aussi essentielle. Aujourd'hui, les dispositifs qui sont proposés, que ce soit le QR, qui est un quartier d'évaluation de la radicalisation, ou que ce soit le dispositif RIV, qui est un dispositif de déradicalisation, mais en centre ouvert, ce sont deux dispositifs qui ont le mérite d'exister, mais qui, pour le premier QR, n'est pas une réponse au traitement pénal. C'est-à-dire que c'est une évaluation. Comment les individus qui sont en prison, on a pris la décision courageuse de dire, bon, très bien, il faut les séparer parce que des détenus de droit commun avec un niveau bac ou infra-bac pas très intelligents, ils sont faciles à endoctriner, donc il faut les séparer. Mais comment on traite ces individus? Comment la prison devient un lieu où l'individu prend conscience qu'il a commis un crime ou un délit, qu'il est là pour le réparer? Comment on l'aide à se réinsérer? Sur cette question de la radicalisation, la recherche, elle doit aller un peu plus loin pour permettre vraiment vraiment que la prison joue son rôle. Et tant on investira dans le bâti, pas suffisamment dans l'humain, on aura des individus qui vont se radicaliser une fois sortis de prison, qui commettront des attentats, hélas.
Amélie Mchili?
Oui, non, effectivement, il y a quelque chose qui a un rapport aussi avec le traitement de ce qui est dépassionné, qui pourrait être intéressant dans ces mesures. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on s'est occupé des questions de terrorisme une fois qu'on en a fait les frais, parce qu'il y a eu un attentat, et qu'on s'occupe plus de comment punir l'auteur ou comment prévenir le prochain attentat que comment faire en sorte que nous soyons dans des conditions qui ne permettent plus que certaines personnes soient intéressées par ces attentats. Et effectivement, il y a toute une sorte de spectre qu'il faudrait apprendre à aborder. D'abord, une littérature qui ne devrait plus exister dans nos librairies, qui promeuvent des valeurs qui sont totalement incompatibles.
Oui, mais enfin, ils iraient sur Internet, donc.
Voilà, sur Internet aussi, il faudrait trouver aussi le moyen de rendre ça interdit. Je pense à il y a un site Internet qui s'appelle Sanaa, je crois, ou quelque chose comme ça, où en fait, vous avez absolument tout en de façon libre. Ça coûte rien si vous commandez des livres, ça coûte 1 €, et si vous commandez pas, vous avez tout en PDF. Ensuite, il y a bien évidemment les questions des écoles, des prisons dont on vient de parler, mais voilà, toujours est-il, il faut absolument commencer à envisager des mesures fortes prises en amont plutôt qu'en aval, et c'est ce qui nous aura, à mon sens, fait perdre énormément de temps jusqu'à présent.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, à moins que vous ayez le vôtre.
J'ai un petit mot de la fin que j'ai repéré dans ce que disait Amélie Mchili, les femmes dans l'État islamique sont avant tout des ventres.
Merci à toutes et merci à tous. Merci Gérard Leclerc, merci Driss Aït Youssef, Amélie Mchili, En attendant le paradis, trajectoire des djihadistes, c'est aux éditions du CERF, et Ashraf Ben Brahim, L'emprise, enquête au cœur de la djihadosphère, est toujours disponible aux éditions Le Mieux. Et on se quitte avec un gagnant, 4 prix aux victoires de la musique québécoise, ça n'a vraiment aucun rapport. Pour un premier album d'Arlène, Hubert Lenoir chante « Fille de personne ».
suis venu te dire que tu peux changer.
Fille de personne du glam québécois, celui d'Hubert Lenoir, pour clore ce NRV, car oui, le nouveau rendez-vous, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Le NRV cette année, vous le savez, chaque jour, ça commence à 18h en avant-première sur franceinter.fr et puis bien sûr en podcast. Ça recommence 22h minuit à l'antenne. On reste en lien pour vos commentaires, vos idées sur Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag NRVFI. La réalisation était signée Anne-Cécile Perrin et Juliette Médevielle. Préparation Virginie Rosic, Corinne Valente, Margot Page, Benoît Lagan, Laure Grand-Besançon, Gaëtan Lévy, Louise Achos. Lundi, on sera là et on se retrouve, on sera là ben avec ça.
À échec exceptionnel, mesure exceptionnelle, parce que sinon, nous disparaîtrons.
La droite en France. Heure de vérité, jugement dernier, ce sera au programme du NRV La Suite. En première partie, Palme d'Or pour Manuel Chiche, le producteur activiste de Parasite, le film du réalisateur coréen Bong Joon-ho. À ses côtés, Romain Cogitor part à Taïwan avec son film L'autre continent. Voilà, je crois que là, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et le bon week-end. À lundi.